Et quand notre système immunitaire se retourne contre nous, c'est à la une de la science.
Vous avez la grippe ?
Je crois.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Eh bien, de très fortes courbatures, des maux de tête, je me sens vraiment pas bien.
Voilà, et c'était en quelle année ça d'ailleurs, ce son d'archive avec cette voix qui ressemble beaucoup à celle de Brigitte Bardot? C'était en 1960, voilà. Quand vous ressentez ces symptômes désagréables, eh bien c'est que votre corps est en train de se battre contre une infection et qu'il relargue des molécules antivirales qu'on appelle les interférons. Ces interférons sont essentiels pour nous défendre, mais ils sont également destructeurs à long terme. Et pour la première fois, une équipe française montre qu'il est possible de bloquer ces molécules de manière simple, et c'est l'objet d'une publication dans le journal Nature. Jean-Philippe Herbeval, bonjour.
Bonjour.
Nika Yasmis, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'un directeur de recherche et l'autre post-doctorante au CNRS dans cette équipe chimie, biologie, modélisation pour l'immunothérapie. C'est à la faculté biomédicale des Saint-Père. Jean-Philippe Herbeval, quel est le rôle exact donc de ces interférons dans notre corps?
Alors, les interférons sont, comme vous avez dit, des molécules antivirales et antibactériennes et aussi antitumorales. Donc, elles ont un rôle absolument essentiel, c'est de défendre le corps contre tout ce qui est pathogène.
On en a beaucoup?
Alors, on en a beaucoup, on a des cellules qui en produisent beaucoup. Mmh. Et c'est les cellules que j'étudie, ce sont les cellules dendritiques, plasmacytoïdes, les PDC dans notre jargon.
Oui, merci.
Et ces cellules sont professionnelles de la production d'interférons, c'est-à-dire qu'elles ont, elles en produisent jusqu'à 1000 à 10 000 fois plus que les autres cellules. Donc, ce sont vraiment les cellules au cœur de la réponse antipathogène.
Et vous venez de montrer qu'il est possible de bloquer la production de ces interférons. Mais quel est l'intérêt de les bloquer s'ils sont là pour nous protéger?
Alors, ce qu'on a montré surtout, c'est que des molécules naturellement produites dans le corps, ouais, comme l'histamine ou la dopamine, donc des neurotransmetteurs, sont capables de réguler la production d'interférons, c'est-à-dire de faire un rétro-contrôle, histoire que la machine ne s'emballe pas.
Et en médecine, il pourrait être intéressant d'avoir nous-mêmes possibilité d'exercer ce rétrocontrôle?
Ah bien sûr, puisqu'il y a maintenant de plus en plus, et ça depuis 5 ans, de très nombreuses maladies, on découvre que les interférons ont un rôle pathologique et finissent par la destruction soit du système immunitaire, soit des cellules tissulaires.
Dans le cadre de la grippe, par exemple, on entendait cet extrait-là tout à l'heure, comment ils agissent alors exactement?
Alors, dans le cadre de la grippe en phase aiguë, c'est-à-dire les 2-3 premiers jours, vous avez une réponse très violente d'interférons pour éliminer le plus possible des virus.
Mm-hmm.
D'accord? Et si cet état perdure, donc là on fait des complications suite à l'infection par la grippe, et là on a toujours autant d'interférons, mais en théorie on aurait dû éliminer les virus. Donc là, l'interféron, au lieu d'éliminer le virus, va éliminer les cellules du corps.
Et là, c'est beaucoup plus embêtant.
Et là, c'est beaucoup plus embêtant.
Alors, Nika Yasmis, c'est vous qui avez mené le gros des recherches en pratique et c'est votre sujet de thèse qui se retrouve publié dans une revue prestigieuse, Nature. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris que le papier était passé?
Beaucoup de joie parce que ça n'a pas été facile. Donc 3 ans de travaux et après, il faut arriver à convaincre le papier que c'est une découverte majeure.
Mmh.
Donc
comment on fait dans ces cas-là alors pour convaincre exactement?
Beaucoup de travail.
Ouais, c'est dans l'explication même de.
Alors c'est dans l'explication, c'est dans beaucoup de nouvelles techniques qu'on peut apporter pour prouver le message par différentes manières, pour que le message soit fort et passe bien et que les gens puissent bien comprendre ce qu'on a montré et l'importance surtout, car c'est relativement novateur, donc c'est toujours beaucoup plus difficile à faire passer un message qui est novateur et qui n'a pas encore été démontré.
Les mécanismes que vous venez de démontrer, ils sont très larges, ils peuvent s'appliquer pour de très nombreuses maladies. Quelle est la première piste que vous allez creuser?
Nous, on a un laboratoire où on s'intéresse particulièrement aux infections chroniques. Mais c'est vrai que toutes les maladies auto-immunes, c'est aussi extrêmement intéressant, comme le disait Jean-Philippe précédemment. Donc l'interféron peut avoir un rôle extrêmement délétère, notamment dans les pathologies donc auto-immunes.
Comme le VIH, par exemple?
Alors le VIH, voilà, c'est une infection chronique. Ouais. Et en effet, dans les phases chroniques du VIH, il y a beaucoup trop d'interférons qui détruisent les lymphocytes T, donc ces fameuses cellules dont on entend régulièrement parler, même si elles ne sont pas infectées, donc vous n'avez plus d'immunité.
Comment Jean-Philippe Herbeval, on lutte contre le VIH en régulant le taux d'interférons dans le temps, pendant des années?
Alors oui, c'est ce que fait le corps. Le corps, naturellement, comme il détecte constamment des virus, il va produire constamment d'interférons. Or, nous, ce qu'on avait constaté il y a déjà 10 ans quand j'étais aux États-Unis, c'est que dans les amygdales de patients qui progressent, donc qui vont aller vers une phase sida, on retrouvait beaucoup, beaucoup d'interférons. Donc, ce qui veut dire deux choses, que le corps produit tout le temps l'interféron et surtout que l'interféron n'est pas efficace puisqu'il n'élimine plus les virus. Donc le sida arrive à bypasser la réponse interférente.
Ouais, mais alors là, concrètement, avec votre découverte, oui. Ça pourrait permettre quoi ? D'avoir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le sida ? On en est là, vraiment ?
On en est là, et ouais. D'ailleurs, il y a, hormis notre publication, en décembre 2016, donc vraiment très récemment, les gros pontes américains, et notamment Steve Dix, qui est le premier clinicien à avoir eu des patients VIH, démontrent clairement que la possibilité de traiter des patients avec des anti-interférons est une piste tout à fait possible pour le traitement du VIH.
Et ça, c'est très nouveau alors comme proposition, justement.
Ah, c'est extrêmement nouveau.
Exactement. Oui. Dans le monde du VIH, il y a un peu deux stratégies. Il y a les virologistes qui s'attaquent au virus et il y a les immunologistes qui essayent de restaurer le système immunitaire. Donc les virologistes s'attaquent au virus et essayent de le détruire. Nous, on est du côté immunologiste et on se dit qu'il vaut peut-être mieux restaurer le système immunitaire et que le virus, on en a plein dans le corps. L'hôte principal a du VIH, mais cependant, il a un système immunitaire qui est très bon.
C'est ce qu'on observe chez les singes, par exemple.
Hein.
C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont porteurs du sida, mais sans en développer les symptômes.
Exactement. Donc, l'idée,
ce serait exactement la même chose chez l'homme. Donc,
exactement.
Du coup, votre stratégie.
Alors, l'idée, c'est quoi concrètement? C'est développer un médicament qui reproduit l'effet de l'histamine en question, dont vous avez prouvé l'effet?
Absolument, parce que dans la publication, donc on a utilisé l'histamine, donc cette molécule naturelle qui est capable d'inhiber les interférons, et on a développé à côté d'autres molécules, et notamment un antihistaminique très proche sur un point de vue moléculaire de l'histamine, et il a exactement le même effet sans avoir les effets secondaires que pourrait avoir l'histamine.
Et ça, c'est prévu pour quand? Alors, est-ce qu'on a... C'est en développement, il y a des labos pharmaceutiques qui
Absolument.
S'intéressent?
Voilà, donc on va, au mois de mars, je pourrais en dire un petit peu plus, mais en tout cas, c'est des pistes, évidemment, qui intéressent les laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, ben, merci parce qu'on a compris l'importance de votre découverte, avec donc cette publication dans Nature. Ça pourrait même intéresser Aline Richard, là, qui vous écoutait attentivement. Pour,
elle m'a donné sa carte.
je pense que prochainement, un article de vulgarisation dans The Conversation France.
Exactement, parce qu'il faut expliquer au plus grand nombre, justement, l'objet de votre travaux. Nikaya Smith, merci beaucoup. C'était votre première radio.
Oui, merci.
Voilà, et ben, on merci. Était très heureux que ce soit dans La Tête au Carré.
Très heureuse d'avoir été invitée ici aussi.
Et bravo à vous, vous êtes une très bonne vulgarisatrice. Merci à vous et à vous également, Jean-Philippe Herbeval.
Merci beaucoup.
Vous êtes déplacé cet après-midi. Merci Axel.
À lundi.
Bon week-end et à lundi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Cour des comptes qui épingle deux grands pôles scientifiques dans la dernière édition du rapport annuel des sages de la rue Cambon, l'Université Paris-Saclay et le Muséum National d'Histoire Naturelle voient leur gestion critiquée. Ainsi, le cluster du plateau de Saclay souffrirait d'un pilotage défaillant mené par des acteurs aux intérêts divergents, tandis que le Muséum aurait fait des choix stratégiques imprudents, notamment concernant la rénovation du zoo de Vincennes, dont les coûts plombent les comptes de l'établissement. Le gène responsable de l'absence de nez identifié, un consortium de 50 chercheurs et 12 pays différents ont réussi donc à identifier le gène impliqué dans l'arynie, une malformation rare entraînant donc une absence de nez. Ce gène a surpris les chercheurs car il est aussi responsable d'une maladie musculaire qui n'impacte pas le visage des malades. De futures études sont prévues pour savoir si d'autres gènes sont impliqués dans l'apparition de cette malformation qui touche moins d'une personne sur 1 million selon les chercheurs. Et puis une batterie rechargeable au CO2 développée par des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie. Cette batterie est mise en contact avec deux solutions aqueuses dans lesquelles sont dissoutes soit du CO2, soit de l'air ambiant. Cette dissolution entraîne une différence d'acidité entre les deux bassins, générant alors un courant électrique qui recharge la batterie. Si cette méthode n'est pas nouvelle, les chercheurs ont réussi à la rendre 200 fois plus efficace, et ce dans des conditions de température normale et avec du matériel bon marché, ce qui est inédit. Les scientifiques espèrent donc développer un système transformant en énergie l'excès de CO2 de notre atmosphère.